Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
Olivier Coudron sur Nutri Radio, comme chaque semaine pour cette émission Neuronutrition. On apprend des choses, mais tous nos intervenants, j'ai l'impression de dire la même chose à tous, mais on apprend énormément et vous êtes de plus en plus à écouter Nutri Radio. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, même à vos ennemis, comme ça plus ils apprendront, moins ils seront bêtes. Et donc, ça va devenir vos amis, vous êtes d'accord Olivier?
Et ils seront moins agressifs. On a vu que si on mange bien, si on nourrit son cerveau, eh bien, on a moins de troubles du comportement, moins d'agressivité sociale. C'est pas mal comme idée, je trouve.
Exactement. Alors, la semaine dernière, on a parlé de l'alimentation idéale, on va dire, pour optimiser tout cela. Je vais pas à chaque fois me paraphraser, mais bon, en gros, on a vu, et parce que je veux pas perdre trop de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on a vu que les huiles étaient importantes, et puis aussi les boissons. Donc, vous avez commencé par l'eau, mais auparavant, en préparant l'émission, vous m'avez dit, Fabrice, est-ce qu'on parle vraiment des boissons, des liquides, ou on continue sur les omégas? Je dis, mais les omégas, on a tout dit. Il fait, non. Olivier m'a dit, non, je peux en parler encore des heures et des heures. Donc...
Mais oui, parce qu'on a beaucoup parlé des huiles végétales. Alors, on va faire un petit jeu de mots. On va parler des poissons, et après, on parlera des boissons, si vous le voulez bien.
Oh, alors là... Je valide.
Là, je trouve pas mal. Alors, c'est vrai que dans les acides gras oméga 3, donc ces fameuses huiles, ces fameux acides gras essentiels et indispensables qu'il faut tous les jours dans l'assiette pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, on a les acides gras végétaux, on a vu le colza, et puis qu'on trouve aussi dans les noix, par exemple, qu'on trouve aussi dans les fruits, dans les légumes verts comme la salade, etc., mais en plus petite quantité. Et puis, il y a les longues chaînes, l'EPA, le DHA. Alors, ça, c'est important. On a déjà évoqué que l'œuf oméga 3 est une très, très, très bonne source, très biodisponible. C'est-à-dire qu'on les absorbe bien, on les met bien dans le cerveau, ces acides gras indispensables. Donc, manger des œufs oméga 3, c'est une bonne source. Mais les poissons, les fameux poissons gras, eh bien, les petits poissons de pêche durable, parce qu'il faut respecter l'océan, hein, c'est important. C'est la sardine, le maquereau, le hareng, eh bien, tous ces petits poissons-là, ce serait bien d'en manger au moins une fois par semaine, une fois, voire deux fois par semaine. Sardines en boîte, sardines fraîches en saison, ou les filets de maquereau. Il y a mille et une façons de les consommer, mais ce sont des poissons qui apportent plein de micronutriments, plein de vitamines, de minéraux, et qui sont une source quasiment indispensable d'oméga 3, de PA, DHA.
Bien, vous l'avez compris, il y a des sujets comme ça. Il ne faut pas lancer les gens sur les... Alors, Olivier, c'est les oméga 3. Il ne faut pas lancer. Vous faites un repas entre amis. Par exemple, vous dites, tiens, Olivier, viens, bam, les oméga 3, non, n'en parlez pas.
Non, servez-les à table, c'est tout.
Servez-les. On se doit de répéter. Et puis après, voilà, les sardines, par exemple, c'est toujours de l'huile d'olive. Hein, sardine, huile de tournesol, vous avez compris. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, vous évitez. Hein, on est d'accord, Olivier?
Tout à fait. Alors après, on voit en prise en charge des patients ou des personnes qui sont accompagnées en neuronutrition qu'on peut aussi les apporter avec des compléments alimentaires. Il y a des très, très bons compléments alimentaires avec des huiles de poisson, des huiles de krill, différents types d'oméga 3 et qui vont être importants, très importants, parce que ça va permettre de prendre en charge des patients qui en manquent. Et 3, 4, 6 mois de compléments alimentaires riches en EPA, DHA, eh bien, c'est parfois incontournable, sous les conseils d'un professionnel, hein, je préfère le dire tout de suite.
Évidemment, et merci de prendre les précautions. Alors, les boissons, quelles boissons choisir pour avoir un cerveau en pleine forme? Vous allez nous détailler cela dans un instant, parce que c'est le sujet du jour, mesdames, messieurs, et on revient tout de suite après la pause.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clean Label, aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandé par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Olivier Coudron sur Nutri Radio. Je vous explique le fonctionnement, Olivier. Pourquoi la pause intervient-elle aussitôt? Est-ce que vous le savez?
Parce que tout est rythmé.
Parce qu'il faut du rythme. Et puis surtout, on a un partenaire sur cette émission qu'on remercie d'ailleurs, le laboratoire Lépivitz, laboratoire familial de compléments alimentaires. Vous en parliez tout à l'heure des compléments alimentaires, de leur importance. Et bien voici un qui fait bien les choses. Donc il y a une petite pub si vous nous écoutez en podcast. Et donc bah, merci d'écouter parce que ça nous permet aussi de faire ces émissions hein. Mais la mission en plus c'est de l'information. Donc voilà pourquoi la pause intervient rapidement. Maintenant on passe au... Et en plus on fait un petit clin d'œil comme ça au sponsor. On est bien, on est installé. Je veux pas vous mettre dans la barre Olivier parce que par contre je vais vous reconcentrer tout de suite sur le sujet de l'émission, ces boissons qui permettent à notre cerveau d'être en pleine forme. Quelles sont les boissons qu'il faut favoriser? Vous me parliez pendant la pub de Coca-Cola notamment. Non, je rigole.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça introduit bien le sujet. L'eau reste, bien sûr, vous le savez, hein, la première boisson indispensable. Par contre, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on est presque tous déshydratés. On ne boit pas assez. Les besoins en eau sont, pour l'adulte, assez clairs. Hein, c'est au moins 1,5, voire 2 litres d'eau par jour, tous les jours. Et beaucoup plus, j'insiste, parce que souvent on le minore, et beaucoup plus si on est en surpoids. Hein, pour les personnes qui sont en surpoids, en obésité, eh bien, c'est beaucoup plus que 2 litres d'eau par jour. Pour les personnes sportives et actives, c'est beaucoup plus que 2 litres d'eau. S'il fait chaud en été, si on transpire, c'est beaucoup plus. Donc, le déficit en eau, le manque d'eau, ça illustre bien ces fameux 12 besoins du cerveau et du psychisme. On a besoin de s'hydrater pour aller bien et pour que le cerveau fonctionne bien. Premier concept.
Alors, ça c'est un concept. Maintenant, moi, petite question, de l'eau, est-ce que toutes les eaux se valent? On sait qu'il y en a qui sont plus ou moins chargées en certains oligo-éléments, il y a aussi l'eau pétillante. Est-ce que l'eau pétillante, elle a des vertus, par exemple, plus que de l'eau minérale?
Alors, c'est très important de mettre une hiérarchie dans les conseils. Le premier conseil, c'est toutes les eaux sont bonnes à boire. Buvez à partir du moment où c'est une eau saine, une eau potable, bien évidemment. Donc, on se prend pas la tête en se disant « Ah, je bois moins parce que c'est de l'eau du robinet, etc. » Elles sont bonnes à boire et le bénéfice à s'hydrater est considérable. Premier niveau, buvez. Ensuite, il y a la qualité de l'eau. Oui, et là, on a différentes eaux. Là encore, il faut pas en faire une lutte de chapelle. Ceux qui aiment bien l'eau de table, l'eau minérale calcique ou magnésienne, c'est mieux parce que ça apporte en même temps du calcium et du magnésium, ce qui est précieux. Mais si on n'aime pas, eh bien on prend de l'eau de table ou de l'eau de source qui apporte peu de minéraux, peu d'oligo-éléments. C'est pas grave, on les trouvera ailleurs. On mangera plus de noisettes, de noix et d'amandes. Voilà, c'est un peu ça la notion de bon sens. Donc il faut une grande quantité d'eau. Moi j'aime bien donner le principe des 8 grands verres par jour, un le matin au réveil, un au cours du petit déjeuner, un en milieu de matinée, voilà. Et on échelonne comme ça 8 grands verres par jour, essayer de penser et d'appliquer ça. La qualité, c'est toutes les eaux, hein, même si c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les eaux filtrées qui auront été préalablement épurées de certaines molécules organiques indésirables ou des eaux minérales naturelles, l'eau riche en magnésium. Mais c'est pas la priorité absolue. Et après, Fabrice, et après je me tais. Après, la troisième chose, c'est que cette eau, eh bien, on doit l'apporter et elle peut être apportée sous forme de plusieurs types de boissons. Et c'est une bonne façon d'apporter aussi d'autres substances utiles. Et on pourra parler dans un instant du thé, du café, des tisanes et des infusions, par exemple, que l'on peut utiliser en neuronutrition.
Alors ne me dites pas que vous allez vous taire parce qu'on est là pour vous écouter hein, chaque semaine. Et on vous écoute d'ailleurs avec attention. Donc déjà, c'est bien de déculpabiliser un petit peu ou de décomplexer parce que on entend vraiment des choses. Bon, l'eau du robinet qui est toxique, on se dit plein chargé de métaux lourds, on a trouvé des traces d'antibiotiques, etc. L'eau en plastique, en bouteille en plastique, on dit c'est vraiment pas bon parce que c'est plein de, je me souviens plus, de phtalates ou je sais plus exactement. Excusez-moi, mais bon, il y a plein aussi de toxiques. On sait plus quoi faire, mais s'il y a, aussi, des eaux qui sont déminéralisées ou qui sont pas aussi chargées en oligo-éléments, vous le dites, déjà l'important déjà c'est de s'hydrater, on peut aller chercher ces oligo-éléments autrement.
Voilà, c'est ça, faut relativiser. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le domaine de l'alimentation, la peur du toxique est souvent prédominante et on évite un certain nombre de sources parce qu'on a, on craint que ce soit un peu contaminé. Alors, par exemple, l'histoire du phtalate, en effet, bah, le phtalate, le bisphénol, les bisphénols, bah, c'est pas une bonne chose. Mais dans les bouteilles d'eau, ça, il y en a plus aujourd'hui dans le, en Europe. Donc, on n'a pas de migration dans les bouteilles d'eau. Donc, on va s'embêter en se disant, là, jamais d'eau minérale en plastique. Voilà. Ça, c'est une petite confusion entre le risque, hein, et le bénéfice qu'on pourrait avoir avec ces consommations. Donc, essayons d'abord de mettre le bon sens et de boire. Voilà, de boire de l'eau d'abord.
On va marquer une dernière pause et après, vous allez revenir sur les autres sources d'hydratation, oui, comme le thé vert, vous en avez parlé. On va parler également du café. On va voir si tout cela, ça fait partie des boissons qui sont hydratantes et dont on a besoin chaque jour. C'est juste après ceci sur Nutri Radio.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Chaque semaine, il est là, fidèle au poste, pour cette émission Neuronutrition qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de, non pas de notre cerveau, parce que pour ça on a une émission qui s'appelle Sphère Neuro avec l'excellentissime Célia Morès qui est docteur en neurosciences. Mais là, pour le moins, on apprend à optimiser la santé du cerveau, de l'organisme, donc par extension. On sait à quel point tout est lié, le microbiote, etc. On revient aujourd'hui sur l'hydratation et les différentes boissons dont on doit nourrir le cerveau. L'eau, c'est numéro un, évidemment. Est-ce que, par exemple, le café, le thé vert, les infusions, tout cela aussi, on appelle ça l'hydratation, et est-ce que ça fait aussi du bien à notre cerveau?
Tout à fait. Donc, quand on dit boire 2 litres d'eau par jour, alors ça peut être des grands verres d'eau, plates ou gazeuses, selon les préférences. Hein, ça, c'est vraiment pas quelque chose de majeur, de discriminant. Et ensuite, ces eaux, on peut les aromatiser. On peut les utiliser comme un vecteur qui vont transporter d'autres principes actifs, d'autres éléments intéressants, notamment le thé. Le café, ce sont les deux boissons les plus bues au monde, hein, le café notamment. Et contrairement à une idée trop largement répandue, on se méfie un peu du café. Or, c'est en neuronutrition une boisson santé pour le cerveau. C'est vraiment très intéressant de boire du café, 2 tasses, 3 tasses, 4 tasses par jour. Voilà, faut pas en abuser parce qu'il y a de la caféine et que la caféine en excès, quand on va boire 6 ou 7 tasses par jour, eh bien, ça va entraîner des inconvénients. Mais lorsqu'on en boit raisonnablement, et je dis bien 2, 3, 4 tasses par jour, ça ne pose aucun problème. Même mieux que ça, eh bien, quand on boit du café, on a moins de douleurs, moins de migraines, moins de troubles dépressifs, moins de troubles de concentration, moins de maladies neurodégénératives. Et donc, pour nous, le café, eh bien, c'est une façon de boire de l'eau. Ça ne déshydrate pas. Là encore, c'est une idée reçue qui a encore la vie dure. Hein. Mais donc, boire du café, ça ne déshydrate pas. Tous les travaux qui ont pu être faits là-dessus n'ont jamais montré que le café déshydratait, puisque ça apporte de l'eau. Par contre, ça apporte des polyphénols. Et ça, c'est un mot qui est très important en neuronutrition. C'est-à-dire, ce sont des substances qui ont de l'amertume, qui ont des saveurs particulières, qui sont dans les végétaux, qu'on va retrouver abondamment dans le thé, dans le café, et qui vont agir sur le microbiote intestinal, être un facteur de santé, qui vont aussi agir sur nous, sur notre métabolisme, sur la santé. Par exemple, le café et les polyphénols de café protègent des maladies hépatiques. D'ailleurs, souvent, quand on a une maladie du foie, on dit « Ah, arrêtez le café !» Non, on conseille aujourd'hui, dans la recommandation nutritionnelle, de boire du café dans la prévention de ce qu'on appelle les NASH, hein, les stéatoses non alcooliques, mais ça protège aussi et ça améliore, ça optimise la santé mentale. Donc, voilà. Thé, café, de très, très, très bonnes boissons. Thé vert, thé noir, selon les goûts. Hein, il n'y a pas une grande, grande différence. On peut boire du thé matcha, du thé japonais, du thé indien et du café. Attention, il ne faut pas les sucrer. Ça, j'insiste, il ne faut pas mettre du sucre, il ne faut pas mettre d'édulcorant. Il faut s'habituer à retrouver ce goût. Le goût est une nutrition, hein, et c'est une vraie nourriture et la saveur aussi. Donc, aller vers le thé et le café non sucré.
Ouais, ça c'est peut-être aussi le truc le plus compliqué à prendre, et le plus important d'ailleurs, apprendre à ne pas sucrer, parce que si on prend plusieurs tasses de café par jour et qu'à chaque fois c'est 2-3 sucres,
voilà. Bon. Ouais.
Et d'ailleurs, tiens, au niveau de la température du café, récemment, il m'a été dit que l'eau chaude, par exemple, le matin ou l'eau tiède, était à favoriser par rapport à l'eau froide. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il paraît que parfois, c'est aussi un catalyseur quand on prend certains actifs. Le fait de le prendre avec de l'eau chaude, bah, d'ailleurs, c'est le principe aussi du thé. Le thé chaud, et ça va catalyser certains actifs. Est-ce que c'est pareil pour le café? Café froid, café chaud, même combat?
Alors, évidemment, pour l'infusion, pour l'extraction, il faut de la chaleur. Hein. C'est le principe même de l'infusion chaude. Hein. Sinon, c'est une macération. Voilà. Donc, c'est autre chose. Donc, le thé, le café doit être chauffé pour extraire les polyphénols, bien sûr. Après, le café, première recommandation, ne pas le boire tout de suite après l'infusion, on va dire après le percolateur ou après la machine expresso. Parce que là, il y a des furanes, il y a des molécules un peu désagréables qui vont s'évaporer dans les 30 secondes. Donc, on attend toujours un petit peu. On le boit pas brûlant parce que ça, c'est pas bon pour la santé de l'œsophage. Mais sinon, on boit son café comme on aime. Faut pas en faire non plus un dogme. Après, si on boit du café froid, ça ne pose pas de problème. Le thé froid, si c'est un thé non sucré, c'est aussi une très, très, très bonne chose. Et on absorbe tout aussi bien, tout au long de l'intestin, les polyphénols, que la boisson soit chaude ou froide. Je vous le disais, Fabrice, les polyphénols, c'est d'abord et avant tout une très, très bonne nourriture pour le microbiote. Et donc, le microbiote va profiter de ces polyphénols que la boisson initialement était à haute température, enfin, chaude ou fraîche. Voilà. Par contre, c'est vrai que on déconseille de boire trop glacé, par exemple chez les sportifs. On dit boire à température parce que ça crée des réactions au niveau de l'estomac de boire trop froid et c'est plutôt défavorable pour les sphincters. Mais voilà, c'est pas une faute non plus.
Alors, je vais vous donner quelques boissons. Vous me dites si c'est bon, si c'est mauvais. Est-ce que vous en pensez? Ça marche?
Si je peux, voilà.
Alors, l'eau de coco.
Alors, l'eau de coco, très bien, très très bien. Voilà, c'est plein de minéraux. Faudra pas confondre avec l'huile de coco, hein, qui est pas une bonne chose pour moi. Mais l'eau de coco, très bien, je valide. Très bonne chose.
Ok, bah tiens, vous avez ouvert un autre sujet. L'huile de coco, pour vous, c'est pas bon?
Bah, ça a une réputation d'être un acide gras anti-Parkinson, anti-vieillissement du cerveau. Mais c'est une confusion parce que dans la recherche, quand on fait jeûner des petits rats de laboratoire, des souris, quand on fait ce qu'on appelle des diètes cétogéniques, on les nourrit avec des acides gras quasiment exclusivement, avec des graisses. Et l'huile de coco est pas chère, elle contient des acides gras, des lipides qui sont faciles à digérer pour les petites souris. Et on voit que ces jeûnes prolongés, ces diètes cétogéniques, améliorent la santé du cerveau des souris. Mais c'est le jeûne qui l'améliore, c'est pas l'huile de coco. L'huile de coco, elle fait vraiment partie de ce que les cardiologues disent, les diètes. Les lipides hétérogènes qu'on évite de consommer trop, surtout pas au quotidien.
Bon, bah ça c'est dit et on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Alors,
avec plaisir.
Le lait.
Le lait, c'est une bonne chose. Hein, ça compte. Alors, c'est pas du tout une boisson, le lait, Fabrice. Donc,
ah bon?
On ne devrait pas. Non, c'est pas une boisson, c'est un aliment. Ça apporte des substances nutritionnelles. Le lait n'est pas une boisson, mais en tant qu'aliment, on pourra y revenir. Il peut être utilisé, c'est surtout les populations du nord de l'Europe qui permettent de bien digérer le lait, le sucre du lait, le fameux lactose, alors que en Europe centrale ou France, Belgique, on a à peu près un tiers, la moitié des gens qui digèrent pas le lactose du lait, donc ils pourraient pas trop l'utiliser ou en petite quantité, mais plutôt privilégier les produits laitiers fermentés. Hein, les yaourts, les fromages, comme dans le modèle méditerranéen crétois, c'est mieux. Donc le lait, pour moi, je ne réponds pas vraiment à la question, Fabrice, ce n'est pas une boisson.
Et alors, ce qu'on appelle le lait, entre guillemets, du coup, mais le lait d'amande.
Alors ça, c'est une boisson. Mais oui, c'est un jus végétal. C'est un jus végétal. En fait, c'est principalement de l'eau avec, en effet, quelques éléments de polyphénol. Donc, les substituts du lait, donc le lait d'amande, le lait d'avoine, voilà, pourquoi pas, le lait de riz, c'est en effet hydratant. Alors, c'est intéressant parce que pour les personnes qui sont intolérantes au lait, aux produits laitiers, au lait de vache notamment, enfin, à tous les produits aux laits animaux, on peut faire des gâteaux, des recettes, des crêpes avec du lait végétal. Ça marche très bien parce que c'est une eau, quoi. C'est une eau un petit peu enrichie.
Très bien. Alors, on parlait des jus. Du coup, des jus de légumes, qu'est-ce que vous en pensez? Jus de carottes, des pinards, concombres, céleri?
Alors, très, très bien. C'est aussi, quand on parle de ces 2 litres d'eau par jour, normalement, on dit il faut apporter 2 litres d'eau dans les aliments et dans les boissons. C'est-à-dire que quand on prend beaucoup, beaucoup de végétaux, Si on prend de la pastèque, par exemple, en été, ou si on prend des fruits ou des légumes très hydriques, eh bien, ça contribue à apporter de l'eau. On est bien d'accord. Ça apporte d'autres choses. Ça apporte des fibres, ça apporte plein de molécules intéressantes. Mais ça apporte, bien sûr, déjà de l'eau. Donc, quand on fait un jus, alors à l'extracteur, par exemple, ben on enlève les fibres, mais on garde l'hydratation. Donc, ça devient une hydratation. Quand on fait un jus de fruits frais pressé, un jus d'orange, un jus de pomme, eh bien, là aussi, on a une hydratation et ça rentre, en effet, dans les 2 litres minimum par jour. D'accord. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On recommande de ne pas dépasser, je dis pour les enfants, 1 verre de jus de fruits par jour, même maison, hein, même pressé, maison bio, etc. On conseille plutôt de varier et de pas aller vers 2 ou 3 verres de jus. Et encore moins si c'est des jus industriels, mais ça, nous y reviendrons.
Alors, on va continuer dans les boissons, parce que justement, vous m'avez coupé un peu l'herbe sous le pied, parce que j'allais vous dire, après les jus de fruits, on sait qu'il y en a qui disent, non mais surtout pas de jus de fruits, c'est pire que tout, mais donc c'est avec modération, et les jus de fruits maison en particulier, parce que les jus de fruits industriels, là, on en parle, je ne demande même pas votre avis, mais les jus de fruits frais, pressés à froid, maison, faut pas non plus en abuser. Qu'est-ce que vous pensez de, je sais pas, donc... C'est peut-être, vous êtes peut-être en train de me dire que c'est la même école que les jus, mais les smoothies verts, notamment, à base de kale.
Très bien, c'est très bien. Tout ça est très bien parce qu'il y a une partie d'hydratation. On est dans les boissons, donc ça contribue à s'hydrater. Et en plus, ça apporte ces fameux principes actifs, ces nutriments. Alors, dans les smoothies, on va en plus avoir un peu de fibres, parce qu'on va garder ce côté un peu épais, un peu complet, on va dire. C'est pas comme si on croquait un fruit ou des légumes, c'est parce que ça apporte aussi d'autres bénéfices. On va dire c'est un petit peu entre l'extracteur de jus qui enlève les fibres et le fait de manger l'aliment dans sa matrice, hein, dans son côté complet et qui est évidemment le summum. Et très bien, pour les smoothies, on vote pour.
Alors, le kéfir.
Ben, très bien, c'est un aliment fermenté dont on parle de plus en plus. C'est d'ailleurs en 2025, ça va être une nouvelle rubrique de classe alimentaire dans les recommandations PNNS. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que la fermentation, ben, c'est un principe ancestral, hein, dans l'alimentation, qu'on a un peu oublié, mais qui apporte des plus fonctionnels. Le pain, le vinaigre, les yaourts et le kéfir, par exemple, ben, ça apporte un effet, on estime que c'est ce qu'on appelle un effet prébiotique, c'est-à-dire que ça va permettre d'améliorer la bonne vitalité du microbiote de l'intestin. Et ça, on en reparlera, je pense, beaucoup du lien intestin-cerveau.
Bien évidemment. Alors, tiens, vous me parlez du vinaigre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, très intéressant. Bah, c'est un aliment fermenté. Il y a une étude récente, il y a 2-3 mois d'ailleurs, qui montre que la consommation de vinaigre quotidien améliore la dépression chez les personnes en surpoids. Il y a souvent une corrélation entre surpoids, voire obésité, syndrome métabolique et dépression. Hein, 2 fois plus de dépression. Et on voit que les gens qui consomment du vinaigre, eh bien, réduisent leur poids, améliorent la sensibilité à l'insuline, donc ça c'est des choses intéressantes, mais également ont moins de dépression. On a des scores de santé mentale et de bien-être. Donc, le vinaigre, bien sûr, c'est super intéressant.
Le vinaigre de cidre.
Alors, vinaigre de cidre, vinaigre de vin, vinaigre de ce que vous voulez. Moi, il y a un seul vinaigre sur lequel je regarde vraiment l'étiquette. C'est les vinaigres de Modène, parce qu'il y en a beaucoup qui sont avec des édulcorants, des caramels. Donc, ça, il faut apprendre à lire les étiquettes. Mais sinon, tous les vinaigres sont bien. Le vinaigre de cidre a une bonne réputation. Bah, pourquoi pas? Vinaigre de Xérès, vinaigre.
Balsamique.
Oui, balsamique, c'est celui-là, je parlais de Modène, mais c'est balsamique qui contient, hélas, du caramel ou des sucres ajoutés. Donc, lisez bien pour le balsamique l'étiquette.
Très bien. Et alors, tiens, on va aller sur peut-être dans des choses qui sont moins l'unanimité, mais qui posent question, comme par exemple les boissons énergétiques.
Alors, les boissons énergétiques, c'est tout ce qui comporte le guarana, des produits comme ça, Fabrice, je suppose. Ou alors vous parlez du Red Bull, pour pas citer de marque.
Voilà. Pas citer de marque, du Red Bull, par exemple.
Voilà, voilà. Alors, non, ça, c'est des produits ultra transformés. C'est des produits qu'il faut bannir. Pour moi, il faut bannir. Alors, encore une fois, quand je dis bannir, entendons-nous bien, c'est je ne les achète pas. Si je tombe dessus et que j'en bois une fois de temps en temps, ça pose aucun problème. Hein, il y a de la caféine, bon voilà, il y a d'autres molécules. Mais c'est pas toxique. C'est le quotidien qui me pose un vrai problème. Donc pour moi, les boissons énergétiques n'ont aucun intérêt, encore moins pour le sportif et encore moins pour être en forme au niveau santé cérébrale. Il y a beaucoup d'autres façons, beaucoup plus efficaces et moins toxiques.
Et alors, pour terminer, les boissons isotoniques, vous savez, pour les sportifs, pour hydrater, reconstituer les électrolytes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
indispensable. Un sportif qui pratique plus de 35-40 minutes de sport, les sportifs de bon niveau ou de haut niveau, bah, leur gros problème, un des gros problèmes, c'est la déshydratation, c'est le manque d'hydratation et d'apport d'électrolytes, de sucre aussi hein, pendant l'effort. Donc ces boissons, elles sont bien formulées, elles sont normalement bien adaptées. C'est vrai que dans le commerce, il y a toute une gamme plus ou moins chère, plus ou moins bien formulée, mais pour, en général, oui, il faut prendre pour les sportifs ces boissons adaptées de l'effort ou parfois même des boissons de récupération après l'effort. Alors, il faut travailler juste avec des bons produits où il n'y a pas trop de crasse ou d'additifs et qui soient bien formulés avec les bonnes doses. Mais c'est une bonne chose. Il faut que les boissons, il faut que les sportifs boivent mieux et mangent mieux.
Alors, vous parlez de polyphénol. la dernière boisson dont je vais vous parler, c'est le vin rouge.
Oui, ça fait partie du modèle traditionnel méditerranéen, donc on peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Le problème du vin rouge, évidemment, c'est qu'il faut le consommer avec vraiment parcimonie, modération. Il faut faire attention à l'alcool. L'alcool, c'est pas une très bonne chose quand on en consomme tous les jours, quand on consomme avec excès. Sinon, bah, le vin rouge, dans beaucoup d'études, les premières études de professeur Orgogozzo à Bordeaux avaient montré qu'en effet, ça limitait les déclins cognitifs. Depuis, il y a beaucoup d'autres études qui ont montré qu'en effet, il pouvait y avoir des bénéfices qu'on attribue au polyphénol des vins. Mais il faut essayer de pas en manger, en boire trop, parce que l'alcool reste quand même dès le premier verre quotidien, ben, un promoteur de certains cancers. Donc il faut voir dans quel contexte on le consomme. Alors j'ai rajouté, je sais que je suis bavard, Fabrice.
Mais non, mais c'est très bien, on adore.
Allez, mon ami regretté David Servan-Schreiber, quand la première formation de neuronutrition à la Riboisière, à la fac, qu'on avait fait ensemble, nous avait révélé une belle étude qu'il avait faite aux États-Unis, montrant que les consommateurs réguliers d'alcool, alors modérés, méditerranéens, donc une dizaine de verres de vin rouge par jour, réduisaient leur facteur de risque s'ils consommaient une certaine vitamine dans l'assiette, qui sont les folates, la vitamine B9, l'acide folique ou les folates, qu'on trouve dans les légumes verts. Autrement dit, faut pas seulement voir de façon simpliste, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, c'est blanc ou c'est noir, mais si je bois de l'alcool tous les jours, et que je mange du sucre, et que je prends du Red Bull, et que j'oublie de manger des produits laitiers fermentés, et que j'oublie de boire de l'eau et de faire du sport, ça favorise les cancers. Mais si je reste dans les recommandations, c'est-à-dire on essaie d'être à un verre de vin par jour, de vin rouge, voire même de temps en temps deux, et que je mange des folates, donc des légumes verts à feuilles, hein, ou le fameux foie de morue dont vous parliez la dernière fois, eh bien, si je mange des folates, je réduis l'impact délétère sur la cancérogenèse dans une certaine proportion. Donc, c'est pas simple. Ça renvoie à cette notion que c'est complexe, que c'est interdépendant et qu'il faut voir les choses de façon globale.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Coudron. C'était encore une fois très intéressant. Vous avez dit à un moment donné, je crois que j'ai entendu ça, 10 verres par jour. Non, c'est pas 10 verres par jour.
Par semaine, hein, j'ai dit ça. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un gros lapsus terrible. Hein. Verra, je m'excuse vraiment auprès des auditeurs.
Il y a beaucoup de gens qui étaient contents.
Hein. Alors non, la recommandation, c'est bien 10 verres par semaine avec au moins 2 jours d'abstinence.
Bien, et donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer donc avec modération, et les informations que vous entendez en général sur le Tri Radio, et donc en l'occurrence ici, ne se substitue pas ni à un avis médical ni à un traitement. En tous les cas, merci beaucoup Olivier, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Neuronutrition, c'est sur le Tri Radio. Au revoir Olivier.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.